Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante « Croire tel que le Saint-Livre nous indique et nous enseigne ». Nous sommes à l'étude numéro 11. Quelles sont les qualités d'un disciple de Jésus ? Ceci est donc notre titre pour aujourd'hui. Quelles sont les qualités d'un disciple de Jésus? Comme nous l'avons vu dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont très souvent appelés disciples. Il est donc important de découvrir, après avoir considéré ce que est un vrai chrétien, la définition d'un authentique disciple de Jésus selon les évangiles. Les pharisiens avaient leurs disciples, ils les enseignaient à jeûner et les manipulaient pour qu'ils se conforment à leur volonté, selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 16. Jean-Baptiste avait aussi ses disciples qui jeûnaient, saint Matthieu, chapitre 9, verset 14. Jésus lui-même avait ses disciples en la personne des apôtres qu'il a choisis pour être avec lui. Saint Marc, chapitre 3, verset 14. Chers amis, veuillez bien noter les indications bibliques que je vous donne, car c'est important pour que vous puissiez vérifier que on ne vous donne pas un enseignement tronqué, biaisé, peut-être voire même personnel, mais que tout est basé sur les saintes écritures, car chacun de nous aura des comptes à rendre devant Dieu, et j'en suis très conscient. Et pensez bien que je ne prends pas cela à la légère. À d'autres endroits du Saint-Livre, le terme est utilisé pour tous ceux qui suivent le Seigneur, donc le terme « disciple ». Toutefois, plusieurs d'entre eux se sont retirés et ils n'allaient plus avec Jésus. Vous pouvez trouver cela dans saint Jean, chapitre 6, verset 60, jusqu'au verset 66. Donc, tous les disciples sont des chrétiens, c'est vrai, mais tous les chrétiens ne sont pas forcément des disciples. En principe, tous les chrétiens devraient devenir des disciples. Il n'en est hélas pas toujours le cas. Et cela à cause d'une prédication moderne à l'eau de rose, sans aucune repentance ni obéissance, cherchant à satisfaire les désirs égoïstes des auditeurs plutôt qu'à proclamer tout le conseil de Dieu. Donc, devenir un chrétien ne nous coûte rien si c'est un message à l'eau de rose. Mais devenir un disciple, ça nous coûte absolument beaucoup plus, car un vrai chrétien, ça deviendra un vrai disciple de Jésus, et il ou elle ne peut se contenter d'une simple assurance pour aller au ciel, comme il y en a qui disent, je vais à Pâques et à Noël à la cathédrale ou à la messe, et donc, je ne suis pas si mauvais que ça, je sais que j'aurai mon entrée assurée au ciel. Ce qui n'est peut-être pas aussi sûr et certain que cela. Nous devons donc faire attention à cette idée-là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voyez-vous, quels sont maintenant, on va voir ça de plus près, Quelles sont les qualités d'un véritable disciple de Jésus-Christ? Et là, nous allons voir d'une façon beaucoup plus approfondie ce que ça veut vraiment dire. Simplement aller à l'église tous les 3 mois ou à Pâques et à Noël, c'est peut-être pas suffisant. Va savoir. On va voir ensemble. Premièrement, la qualité. Il y a la qualité. Le disciple donne à Jésus la toute première place dans sa vie. Ça, c'est la première qualité. Je répète, le disciple donne à son Seigneur et Sauveur la toute première place dans sa vie. Jésus a déclaré, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et à sa mère, même sans me préférer à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, eh bien, il ne peut être mon disciple. » Saint Luc, chapitre 14, verset 26, j'ai pris cela dans une version allemande, mais rassurez-vous, votre version française ne dit pas autre chose. Donc, Jésus nous donne ici la première condition pour être son disciple. Il doit avoir la place suprême dans notre vie. Nous devons l'aimer en priorité avant tout autre amour dans notre existence. Donc, ça veut dire qu'il doit être le premier dans nos affections et ne doit avoir aucun rival. Cela ne veut pas dire, je le répète, que nous devons haïr notre famille. Cela veut simplement dire que nous devons donner à Jésus-Christ la première place au-dessus même de toutes les autres qui sont importants dans notre vie. Jésus demande donc que notre loyauté et notre amour pour lui soit plus grand tout simplement que tout autre attachement et même celui de notre propre famille. Par exemple, lorsque une situation particulière se présente où nous aurons un choix difficile à faire entre notre obéissance à un parent ou notre obéissance à Christ, notre amour pour Christ doit donc prendre la première place. La haine dont il est souvent question dans le verset Saint-Luc chapitre 14 verset 26, cela est en réalité souvent mal compris. On croit ou on veut vous faire dire, maladroitement certainement, que vous devez haïr votre famille. Pas du tout. En réalité, c'est une formulation sémitique pour exprimer une priorité, c'est tout. Et cela n'est évidemment pas un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive. Ce que Jésus appelle ses disciples à cultiver, c'est un tel dévouement pour lui que leur attachement à toute autre chose, y compris leur propre vie, ressemblerait à de la haine, je dis ressemblerait à de la haine en comparaison de cet amour-là. Saint Luc, chapitre 16, verset 13. Toutefois, ne l'oublions pas, plus nous aimerons le Seigneur, plus nous serons en mesure d'aimer les autres, parce qu'il est l'unique source du véritable amour. Il est celui qui peut pleinement satisfaire notre cœur et celui des autres. C'est à travers cette relation d'amour avec Jésus, avec le Sauveur et Berger de notre âme, que la soif d'amour se trouvant dans le cœur de tout être humain sera définitivement étanchée et comblée, selon saint Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Quelqu'un d'autre a-t-il usurpé la place légitime de Jésus dans votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-il le premier dans vos plaisirs, dans vos amitiés, dans vos affaires, en fait, dans tous les domaines de votre vie? Eh bien, cherchez, réfléchissez. La deuxième qualité, chers amis, le disciple est décidé à porter volontairement sa croix. Ça aussi, ça a été souvent mal compris. Jésus a dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Saint Luc, chapitre 14, verset 27. Que veut exactement dire Jésus quand il annonce que le vrai disciple est celui qui porte sa croix? Les auditeurs de Jésus savaient ce que signifiait l'expression « porter sa croix ». Car lorsque les Romains ont conduit un condamné sur le lieu d'exécution, ils le forçaient à porter sa croix. Le condamné montrait ainsi sa soumission à Rome et avertissait le peuple qu'ils avaient intérêt à se soumettre à l'occupant. Par ce propos, le Seigneur met à l'épreuve l'enthousiasme des foules à le suivre. Il demande à ceux dont l'engagement est encore superficiel à persévérer davantage ou à rebrousser chemin. Suivre donc Jésus, c'est se plier entièrement à sa volonté, parfois même jusqu'à la mort. Hélas, oui. Porter sa croix, c'est donc suivre Jésus volontairement en acceptant d'être injurié et de souffrir par amour pour lui. Si nous voulons être ses disciples, il nous faut accepter d'être persécutés et incompris comme il l'a été lui-même et dire avec lui non pas ma volonté, mais la tienne. Saint Luc, chapitre 22, verset 42. Un disciple sera donc rejeté par tous ceux qui, dans le monde, n'honorent pas Christ. Et c'est pourquoi il doit être prêt à faire face et à accepter un tel rejet. Rappelons que la croix n'est pas une maladie physique ou une angoisse mental, car dans ce cas-là, Jésus-Christ a porté la croix pour nos maladies, et tout cela à notre place, à ma place. Bien sûr, il ne ferait pas bon d'aller en vacances pour le moment en Corée du Nord, parce que là, on risque d'être condamné à mort même en étant un tout proche du leader président autoproclamé et donc presque à se faire adorer comme un dieu. Chers amis, avons-nous pris position pour Jésus publiquement? Ça, c'est une autre question importante et délicate. Nos amis et nos bien-aimés savent-ils que nous sommes chrétiens? Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes et à accepter de souffrir peut-être même et d'être rejetés par amour pour notre Sauveur et Seigneur? La troisième qualité, le disciple persévère dans l'obéissance à la sainte parole de Dieu. Jésus, toujours en rapport avec les qualités d'un vrai disciple, il a enseigné ceci à tous ceux qui voulaient le suivre. Il a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Saint Jean, chapitre 8, verset 31. Le verbe « demeurer », cela veut dire « rester ferme, rester fidèle et persévérer ». Le vrai disciple est donc quelqu'un qui persévère fermement et fidèlement dans l'obéissance à la sainte parole de Dieu et qu'il considère comme étant l'autorité divine complète et suffisante dans sa propre foi. Il ne va jamais au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Donc, persévérer dans l'obéissance aux Saintes Écritures, cela constitue le fruit et la preuve d'une foi authentique. Ephésiens 2, verset 10. Cela veut dire, simplement, croître à l'image de Christ afin que notre vie soit conforme à sa parole et à sa volonté. La vraie foi possède cette qualité de constance. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous demeurons dans sa parole, mais nous demeurons dans sa parole parce que nous sommes sauvés. Possédons-nous cette qualité d'un vrai disciple de Jésus? Lisons-nous, méditons-nous et nous nourrissons-nous de la sainte parole de Dieu afin de connaître sa volonté pour chercher ensuite sincèrement à la mettre en pratique. Le psalmiste qui aimait cette parole a déclaré « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » C'est ce que a dit le roi David. Psaume 119, verset 97 ou 97, et encore ajouter le verset 103. La quatrième qualité. Le disciple renonce à lui-même. Alors Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Saint Matthieu, chapitre 16, verset 24. Nous pouvons donc renoncer à mille et une choses dans la vie sans renoncer à nous-mêmes. Comprenez-vous cela? Voyez-vous, le renoncement à soi, ça, c'est le fondement même de la vie du disciple, c'est la loi fondamentale d'admission à l'école de Christ. Et cela correspond au chemin resserré et à la porte étroite de l'Évangile. Notez Saint Matthieu, chapitre 7, verset 14. Si cette vérité n'est pas fermement établi dans notre vie chrétienne, eh bien, toute la maison risque de s'écrouler un jour. Que veut dire Jésus par ces paroles? Le verbe « renoncer », eh bien, cela signifie dans le texte grec que nous devons nous détourner de quelqu'un ou de quelque chose, ou refuser de s'asseoir ou de travailler avec cette personne. Nous devons répudier tout égoïsme. Ça, c'est important. Et la personne à laquelle nous devons renoncer, c'est surtout notre moi, c'est notre ego, non seulement en partie, mais en totalité. Autrement dit, nous devons placer Jésus-Christ avant nous-mêmes et avant les autres. La soumission à sa personne doit être si complète que notre moi n'aura plus aucun droit ni aucune autorité. Évidemment, vous avez le droit de dire « ça c'est plus vite dit que fait ». Et c'est vrai, évidemment, c'est vrai. Chers amis, le plus grand ennemi du chrétien, c'est bel et bien mon propre moi. Le monde nous encourage à nous dorloter, mais par contre, Christ nous appelle à renoncer à nous-mêmes. C'est autre chose que de nous dorloter, c'est-à-dire à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais uniquement pour Christ. Le chrétien qui vit pour lui-même sera toujours insatisfait et instable, tandis que le chrétien qui vit entièrement pour son Seigneur et Sauveur expérimentera sans cesse, même dans l'épreuve, et oui, même dans l'épreuve et même dans la souffrance, il y aura sa paix, la paix de Jésus, sa présence et sa consolation, selon Romains, chapitre 16, verset 33. Jésus-Christ n'est donc pas seulement mort sur la croix pour délivrer l'homme de ses péchés, mais aussi de me délivrer de mon moi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'est écrié « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vis maintenant dans la chair. Oui, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Donc, le problème majeur du chrétien, c'est, et on y revient, c'est malheureusement son moi. Et non un trop petit ou un trop grand ou une trop grande estime de soi. Pour le chrétien spirituel ou le disciple, sa vie n'est plus égocentrique, mais elle est christocentrique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il ne vit plus pour lui-même, car son moi a été crucifié avec Christ. Le Christ vivant règne désormais par sa vie en lui. La sainte parole de Dieu lui demande maintenant de se considérer comme étant mort au péché, à ses propres désirs et à ses propres intérêts, et comme étant maintenant vivant pour Dieu, pour notre Père Céleste, en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Le disciple a donc dit non. Il a dit non à sa volonté égoïste, à ma volonté égoïste, je dois dire non, pour choisir de faire délibérément maintenant la volonté divine. En revanche, vivre une vie égocentrique, cela signifie que je me place moi-même au centre de tout ce que j'insiste pour obtenir ce que je veux au moment où je le veux. Cela veut donc dire aussi que je manipule un peu les autres en vue de satisfaire mes propres désirs. De plus, ce n'est pas seulement exiger que ma propre volonté se fasse, mais surtout de faire en sorte que les autres fassent aussi comme moi. Cela est misérable et stérile. Rappelons-nous que renoncer à soi-même, cela veut dire qu'à chaque instant de ma vie, je dis non, non au moi, non à moi-même, et surtout oui à Dieu, mon Père Céleste. C'est détrôner une fois pour toutes mon fameux moi pour donner le trône de ma vie au Seigneur. Il y a une magnifique esquisse qui a été dessinée, je ne sais plus le nom de ce dessinateur chrétien. On voit un bonhomme qui pourrait être moi, qui se trouve sur le trône, et Jésus tout petit à mes pieds. Or, c'est le contraire qui est vrai. Et il a fait un dessin magnifique où le roi des rois, le seigneur des seigneurs, se trouve sur son trône. Et moi, je me trouve tout petit à ses pieds. C'est un joli dessin qui veut tout dire. Renoncer à soi-même, c'est abandonner le moi comme principe dominant de ma vie pour faire du Seigneur et de sa sainte parole la passion dominante de ma nouvelle vie. Une vie de constant renoncement et une vie chrétienne qui jouit sans cesse de l'approbation divine. Chers amis, si Jésus s'est donné sans réserve pour chacun de nous, pour toi et pour moi, ne devrions-nous pas en retour nous donner sans réserve à lui? C'est pas une mauvaise question, cela, n'est-ce pas? Après la régénération, il n'y a pas une œuvre de la grâce dans la vie du disciple qui soit plus essentielle que la sanctification, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Car en effet, sans elle, il faut se demander si la régénération a réellement eu lieu. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Et j'ajoute avec mon humour, ne nous sauve pas tellement. Mais elles sont simplement le fruit nécessaire et convaincant de la véritable foi qui sauve. Jacques, chapitre 2, verset 17. Donc, le disciple de Jésus-Christ qui veut suivre son Sauveur jusqu'au bout, a entendu les ultimes exhortations de son maître dans le dernier livre de la Sainte Bible, dit Offenbarung, dans l'Apocalypse. L'appel à marcher dans la sainteté y est sérieux et sans aucune équivoque. Il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Chers amis, premièrement, une mise au point est nécessaire concernant la sanctification, parce que c'est souvent mal compris. Précisons d'emblée que la sanctification n'est pas la perfection, puisque nul n'est parfait excepté Jésus-Christ. Mais elle exprime une soif profonde de perfection qui se réalisera pleinement lorsque nous serons auprès du Seigneur. Pour moi, ça peut être bientôt, vu mon très grand âge. Mais n'attendez pas d'avoir 89 ans pour servir le Seigneur ou pour être un véritable disciple. Ne faites pas comme moi. J'étais un chrétien, pseudo-chrétien, pendant un grand nombre d'années, mais pas un véritable disciple. Je dois humblement le reconnaître devant vous tous. N'attendez pas, je vous en supplie, d'être à l'article de la mort. Je vous en supplie. J'ai failli mourir plusieurs fois, il n'y a pas si longtemps. Le Seigneur a permis que maintenant, depuis quelque temps, je puisse vraiment concrétiser ce que j'ai compris être un disciple. Je vous en supplie, n'attendez pas mon âge. La sanctification ne doit pas non plus être confondue avec la conversion. C'est pas pareil. La sanctification concerne le chrétien, tandis que la conversion, elle s'adresse à l'inconverti. Voyez-vous ? La sanctification, elle vise le caractère et la conduite du chrétien, alors que la conversion traite le problème du péché chez l'inconverti. La sanctification n'est pas l'abandon graduel du péché chez le chrétien, mais c'est sa transformation pour devenir à l'image de son Sauveur. Imitation de Jésus-Christ. Si vous trouvez à quelque part ce vieux livre, croyez-moi, c'est salutaire, mais il est depuis longtemps out of print. Donc, le jour du salut, le pécheur prend en effet la décision absolument radicale de se repentir de son péché, c'est-à-dire de le confesser et de l'abandonner, et plutôt définitivement, pour être pardonné afin de vivre avec le Seigneur une vie totalement nouvelle. Alléluia. Saint Marc, chapitre 1, verset 15, ajouté Actes, chapitre 2, verset 38, et le chapitre 26, verset 20, et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La parole de Dieu, elle déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 28, verset 13. Donc, une personne se déclarant convertie et qui continue à vivre dans le péché, est-elle vraiment, vraiment chrétienne? J'en suis pas si sûr que ça. Voici ce que l'apôtre Paul déclare solennellement à ce sujet-là. Il dit, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Il va sans dire que ne nous mêlons pas à juger ceux qui prennent une cuite ou qui se droguent. Ce n'est pas à nous de les juger. Mais je n'aime pas non plus juger ceux du dedans. Ça, c'est personnel. Hein? Nous sommes tous différents les uns les autres. Moi, je n'y arrive pas bien. C'est pas mon truc. Mais c'est à Dieu de les juger. Ôtez le méchant du milieu de vous, est-il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13, et au chapitre 6, versets 9 et 10. Et une telle personne, prétendant être chrétienne, ne l'est donc pas tellement, puisque l'apôtre Paul le qualifie de méchant. Le problème ici est une fausse conception de la conversion. Ce dont il a besoin, c'est de se repentir et de se convertir, d'où la nécessité absolue d'une véritable repentance au moment de sa conversion pour lui permettre de prendre un nouveau départ, un bon départ dans la vie chrétienne. Deuxièmement, que doit faire le chrétien s'il commet un péché ou des péchés? Eh bien, c'est délicat. Il convient cependant de préciser qu'il arrive à tout chrétien de commettre un péché, moi le premier. Mais j'en suis pas heureux de cela, pas du tout. Mais que le péché dans sa nouvelle vie est désormais un accident et non plus une habitude ou une chose qu'on commet volontairement. Attention, ne faisons jamais cela. Donc c'est quelque chose qui est commis d'une manière tout à fait involontaire et non pas volontaire. Il faut absolument éviter que nous commettons des péchés volontaires. Ne faisons jamais cela et allons nous humilier à genoux pour demander pardon, pour demander que le Seigneur nous relève. Le chrétien aime la lumière et la pureté, et lorsque il lui arrive de commettre une faute, eh bien, cette situation lui devient immédiatement intolérable. Et j'ai connu cela. Il ne peut plus se complaire dans son péché comme avant, ni le justifier ou le camoufler. Car à présent, il haït, il a de la haine contre le péché, et pas seulement contre ses conséquences. Donc, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour régler son problème, et cela le plus rapidement possible, sachant que le péché déshonore définitivement Dieu et va le priver de sa communion, va le rendre malheureux comme une pierre, et cela détruit tout témoignage personnel, évidemment. L'apôtre Jean déclare: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Donc, Merci Seigneur. Lorsque le chrétien a péché, il peut être pardonné en confessant et en abandonnant son péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Premier épître de Johannes, Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Donc, ainsi, la Sainte Bible a prévu un moyen de purification et de restauration afin qu'il retrouve une communion parfaite avec son Père Céleste. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils bien-aimé, nous purifie, en grec, continue de nous purifier. Ah, c'est pas mal! Continue de nous purifier de tout péché. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7. Cette purification continuelle, elle dépend d'une marche permanente dans la lumière. Elle lui accorde la joie de maintenir une communion intime avec Dieu. Par conséquent, si la repentance de ce chrétien est vraiment sincère, il pourra se relever avec une conscience purifiée et avec la certitude du pardon de Dieu. Il n'a donc plus à s'apitoyer continuellement sur ses échecs confessés et abandonnés. Le but de la confession étant de nous rendre libres de jouir de la communion avec Christ. Le caractère de Dieu nous assure vraiment le pardon et la purification. Il est fidèle, est-il dit, et juste pour nous, pour te pardonner. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9, que j'ai déjà cité. Dieu est donc fidèle. Et c'est pourquoi nous pouvons nous fier à ses promesses. Jérémie 31, verset 34. Il est aussi un Dieu juste qui, lui, pardonnera nos péchés parce que Jésus, par sa mort, il a déjà, vous l'avez compris, il a déjà subi le châtiment que méritaient nos péchés, mes péchés. Ésaïe 53, verset 5. Troisièmement, quelle est la double signification de la sanctification? La sanctification a donc deux sens absolument précis. A, la séparation du péché. B, la consécration à Dieu. Donc, d'une part, il s'agit de se séparer du péché. Séparons-nous du péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de l'immoralité, de la fornication, de toute relation sexuelle en dehors du mariage, et pire encore que cela, mais j'ose pas le nommer, même des enfants aujourd'hui peuvent voir dans des journaux quotidiens 2-3 pages avec les photographies de ces dames, avec des textes, quelle horreur, quelle horreur. Vous savez, Sodome et Gomorre ont vraiment existé, malgré que tout le monde dit que c'est pas vrai. Ça pourrait mal se terminer. Je ne le voudrais pas pour quiconque, parce que je ne suis pas un sadique qui se réjouit du malheur de ceux à qui cela pourrait arriver. Oh non, oh non. Je voudrais plutôt pleurer à leur place si ça pouvait aider à quelque chose. Oui, chacun de nous doit savoir que nous devons posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 5. Donc, se sanctifier, c'est se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Je dis de l'esprit parce que j'ai honte de vous dire qu'il m'est arrivé parfois, la nuit, quand je dors pas, que des choses pas très catholiques, c'est mon humour à moi pour dire ce mot, me viennent dans les pensées, alors là je suis dégoûté de moi-même. Et je prie pour que ça n'arrive plus. Oui, n'hésitez jamais de vous bagarrer dans la prière, car c'est une véritable bagarre, car le temps, Satan sait que son temps est court et il utilise tous les millions de démons qu'il a à son service pour nous agresser de n'importe quelle façon. Restons dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, ça ne veut pas du tout dire d'avoir une frousse épouvantable. Non. Lisez 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Le chrétien sanctifié est celui qui s'est séparé du péché, de l'esprit du monde, de son moi égoïste et de tout ce qui voudrait l'éloigner de son sauveur. D'autre part, il faut se consacrer simplement à Dieu. Oui, pourquoi hésiter? Le chrétien qui s'est séparé du péché doit aussi se consacrer à Dieu et le servir. Comment cela? La Sainte Bible donne la réponse. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez donc Christ le Seigneur, selon Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. Une personne sanctifiée, elle est totalement consacrée au Seigneur et elle cherche à lui plaire, non seulement dans l'Église ou la communauté chrétienne, mais encore dans tous les domaines de sa vie, à la maison, au travail même, et pendant ses loisirs. Sa prière constante sera donc que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Son seul désir sera de faire la volonté de Dieu et non pas la sienne. Un disciple est donc soumis à son maître et à sa sainte parole, cherchant à lui obéir en toutes choses. Quatrièmement, la sanctification est à la fois instantanée et progressive. Oui, la sanctification nous est d'abord imputée instantanément, et cela au moment où nous venons à Christ. La Sainte Bible nous enseigne que par la conversion, nous avons été sanctifiés. Alléluia. Mais vous avez été lavés, est-il dit? Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Nous sommes donc sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux, chapitre 10, versets 10 et 14. Et voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont appelés saints. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe comme à des personnes sanctifiées, alors que les Corinthiens étaient bien loin d'être absolument parfaits. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Le contraste que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 1 entre les versets 2 à 9 et versets 10 à 13 illustre bien la distinction que font constamment les épîtres entre la position de l'enfant de Dieu en Jésus-Christ et sa marche ou sa condition journalière devant Dieu et les hommes. Sa position acquise par grâce, elle procède de l'œuvre de Christ uniquement. Il y a entre, on peut dire, il y entre pleinement, absolument pleinement, tout cela dès l'instant où la personne reçoit Christ par la foi. Vous pouvez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui même, si ce n'est pas déjà fait, uniquement par la foi. Alors là, notez, pour que vous puissiez être rassurés, Saint Jean chapitre 1 verset 12 à 13, Romains chapitre 8 verset 1 et le verset 4, et le verset 15 à 17. Je répète, Romains 8, verset 1, et le verset 15 à 17, et 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, et le verset 30. Ainsi, le plus faible, le plus ignorant des chrétiens bénéficie par grâce d'une position aujourd'hui identique à celle du plus illustre d'entre eux. Cela ne signifie pas du tout qu'il peut se permettre d'être passif quant à sa sanctification, car elle est à la fois une œuvre divine et une œuvre humaine. Le pasteur et auteur qui s'appelait Graham Scroggie, très illustre, tient à ce propos un discours remarquable dans son étude sur l'Épître aux Romains, « Salut et conduite ». Non seulement le message chrétien doit être cru et compris et accepté avant que la vie chrétienne puisse être manifestée, mais encore la vie chrétienne est la preuve absolue que le message chrétien a été reçu. Là où il n'y a pas de racines, il ne peut donc pas y avoir de fruits. La preuve de l'existence de la racine, c'est le fruit. Notre justification est dans le Sauveur crucifié. Et notre sanctification, elle se trouve dans le Seigneur ressuscité. Répétons cela, s'il vous plaît, ensemble, vous et moi. Notre justification se trouve dans le Sauveur crucifié. Et notre sanctification se trouve dans le Seigneur crucifié. Ressuscité. Chaque fois que ces deux choses ont été dissociées dans la pensée et dans l'enseignement de l'Église, le déficit dans l'expérience chrétienne a été incalculable. La justification par la foi en Jésus-Christ n'est que le commencement du plan de Dieu pour nous. Le développement complet de son dessein. Cela consiste en une vie conforme au modèle qu'il nous a donné. En résumé, Celui qui croit en Jésus-Christ est sanctifié quant à sa position, car Christ a été fait sanctification pour lui, selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Donc, je répète, car Christ a été fait sanctification pour lui, pour toi. Mais le chrétien doit absolument poursuivre maintenant cette recherche de la sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cela le pousse à étudier davantage la Sainte Bible, qui tout en dévoilant l'état de son cœur, peut lui indiquer aussi le remède en cas d'échec. Et là, j'aimerais que vous notiez Saint Jean chapitre 17, versets 17 et 19, Éphésiens chapitre 5, verset 26, 1 Timothée chapitre 4, verset 5, et Jacques chapitre 1, verset 25. À ce niveau, les serviteurs de Dieu ont également une responsabilité importante, c'est-à-dire celle de prêcher sur la nécessité de la sanctification en exhortant les chrétiens à la rechercher activement. Je répète, à ce niveau, les serviteurs de Dieu, que ce soit des pasteurs, des diacres ou simplement des chrétiens qui ont une certaine assurance, ça peut être une femme. Oui, il y a des femmes très consacrées. Oh là là, et comment ? Donc, une servante de Dieu a également une certaine responsabilité. C'est celle de prêcher sur la nécessité de la sanctification en exhortant les chrétiens à la rechercher activement, et cela en notant Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, et 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Cinquièmement, quels sont les moyens pour marcher dans la sanctification? Les disciples de Jésus-Christ achèvent leur sanctification, premièrement par la foi, Actes chapitre 26, verset 18. Deuxièmement, par le sang de Christ. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7 à 9. Troisièmement, par la sainte parole de Dieu. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Et par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit dans leur cœur. Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34. Et notez Romains chapitre 8 verset 13. Notez encore 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Philippiens chapitre 2 verset 12 et 13. Et ajoutez 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. La sanctification du chrétien n'est pas automatique, mais elle s'accomplit avec la coopération de Dieu et celle de l'homme. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Tout cela pour atteindre le but final. Il doit donc cesser, je dois cesser de faire le mal, surtout ne pas le faire consciemment. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Je dois me purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit. On oublie cela. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, Romains chapitre 6 verset 12 et Galates chapitre 5 verset 16 à 25. Et il doit se préserver des souillures du monde. C'est plus vite dit que fait avec les temps qu'on vit. Jacques chapitre 1 verset 27, Romains chapitre 12 verset 1 et 2, Éphésiens chapitre 4 verset 31 et Colossiens chapitre 3 verset 5 et 10. sa sanctification devient vraiment efficace en conservant une communion étroite avec Christ et en se consacrant à la prière, en obéissant à la sainte parole de Dieu et en étant conscient de la fidélité de Dieu pour pourvoir à ses besoins quotidiens. Elle se fait aussi en aimant la justice et en haïssant l'iniquité, le péché, en se soumettant à la discipline divine et en continuant à obéir à la sainte parole de Dieu et en étant rempli du Saint-Esprit. Sixièmement, nous devons jamais minimiser la sainte parole de Dieu, et encore moins la sainteté de Dieu. Parce que en négligeant la sainteté de Dieu, nous risquons de minimiser la méchanceté du cœur de l'homme. La fusion de ces deux erreurs est là comme conséquence tragique la dévalorisation de la croix de Jésus-Christ. Eh oui, quand nous prêchons l'Évangile, nous devons toujours être conscients que nous servons un Dieu saint qui haït le péché puisqu'il a sacrifié son propre Fils pour expier notre péché. Dieu nous dit à 8 reprises dans les Saintes Écritures, « Soyez saints, car je suis saint. » Ces commandements montrent qu'il est tout à fait possible de mener une vie sainte. Peu importe les talents que je possède, si ma vie n'est pas sanctifiée, je ne suis rien. L'absence de discipline dans certaines églises, cela révèle que la doctrine biblique de la sanctification n'est pas prise au sérieux et qu'elle est même dangereusement négligée. Dans les années passées, des scandales moraux ont secoué les milieux chrétiens, et cela nous rappelle, hélas, qu'il peut y avoir tout un abîme entre la spiritualité, qui, on peut dire, nous indique aussi qu'une foule peut nous suivre sans même que nous fassions pour autant l'œuvre de Dieu. Oui, il est possible que quelqu'un pense que nous sommes très bien, mais que, au fond, nous sommes tout à fait le contraire. Il est possible de tromper de nombreuses personnes pendant un certain temps, mais un jour ou l'autre, la vérité sera mise en lumière. Un disciple marchant dans la sanctification ne sépare jamais le temporel du sacré, car tout, absolument tout, doit être fait pour la gloire du Seigneur. Dieu a rappelé à deux de ses grands serviteurs, Moïse et Josué, que le prédicateur se tient toujours sur un terrain saint et qu'il a intérêt à se comporter comme il se doit. Si personne d'autre ne le voit, eh bien Dieu, lui, oui, Dieu, le regarde et sera un jour son juge. Il a été dit que les êtres humains sont comme des arbres. L'ombre de l'arbre, cela représente la réputation, hein? Or, le fruit, ça représente la personnalité. Mais les racines, eux, ça c'est la partie la plus importante, ça concerne notre caractère. Bien des chrétiens pensent être spirituels simplement en assistant à une réunion d'église par semaine. On m'a même dit, avec un peu d'humour, je le crois, « Oh, vous savez, je vais quand même à la messe, à Noël et à Pâques. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas ?» Évidemment, j'ai pas pu répondre que c'est très très bien. Vous pensez bien. ils ont besoin de réaliser que c'est seulement quand la sainteté de Dieu commence à toucher progressivement chaque domaine de leur vie qu'ils progressent sur le chemin de la sanctification. L'abandon définitif de leur vie à Dieu, ça c'est la condition suprême d'une sanctification réelle. Et vous pouvez y arriver, tout un chacun entre vous. Une vie sanctifiée ne découle donc pas automatiquement de la lecture d'un bon livre chrétien ou de l'écoute d'une excellente cassette ou CD ou de la participation à une bonne réunion. Non, non, non. Ces choses sont bien sûr très utiles en elles-mêmes, je le conçois, mais elles ne sont pas totalement suffisantes. Une vie sanctifiée, ça c'est avant tout une vie disciplinée. Et croyez-moi, une vie disciplinée, ce n'est pas la tarte aux framboises. C'est vécu uniquement en communion avec Jésus-Christ et dans l'obéissance à sa sainte parole. C'est la cerise sur le gâteau. Rappelons-nous que tout en Dieu est saint, sa sagesse, sa puissance, ses jugements et même son amour. Si son amour n'était pas saint, il n'aurait jamais envoyé son Fils unique sur terre afin qu'il meure pour les péchés du monde et cela dans le but de satisfaire les justes exigences de sa propre nature et de sa loi sainte. Au sein de l'Église, si la glorieuse réalité de la sainteté divine n'est plus, qui, hélas, est une priorité absolue, alors, croyez-moi ou pas, il est urgent qu'elle le soit à nouveau. Si nous voulons, vous et moi, vraiment honorer notre Dieu et ne pas attrister le Saint-Esprit et de jouir d'une vie chrétienne victorieuse et accomplir efficacement la mission qui nous a été confiée sur la terre. Puissions-nous tous, vous et moi, être saisis par la vision divine de l'apôtre Jean et entendre dans toutes nos églises le message céleste de ceux qui vivent continuellement près du trône de Dieu et qui ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu et le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient bientôt. » Apocalypse 4, verset 8. Chers amis, nous allons terminer par la réflexion suivante. Il est impensable qu'un Dieu saint n'exige pas de ses enfants une vie sainte. Et nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, Père céleste, tu es le Dieu de la paix, tu es le dispensateur de tout don excellent. Allume et nous t'en supplions dans le cœur de tous les hommes un amour véritable de la paix et un ardent désir de la servir. Servir cette paix dans leur propre foyer, dans la cité, dans l'église, dans la communauté chrétienne, et de la propager entre les églises, entre les diverses confessions chrétiennes, entre les nations même, entre les races, entre les vrais adorateurs dans les diverses religions. soumet toujours davantage les hommes à l'action de ton Esprit Saint, tandis qu'ils gaspillent leurs forces et qu'ils gâchent leur temps à entretenir le désordre et la haine dans la création par leurs stériles disputes ou par leurs sanglantes querelles. Oui, donne-leur, ô Dieu, d'écouter le message du prince de la paix qui a proclamé que heureux sont tous ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux appartient à ceux-là. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes ces études et à la patience de les écouter. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.